7h25, le reportage de la rédaction consacré à la révision de la loi de bioéthique. Sa mesure emblématique, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mais le texte prévoit aussi la levée de l'anonymat du donneur de gamètes. Ces deux mesures vont engendrer beaucoup de changements dans les CECOS, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme. Les centres où sont congelés les spermatozoïdes et les ovocytes dans l'optique d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro. Vous êtes rendu, Tarache Legal, au CECOS de l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Visite guidée avec la responsable du centre, le docteur Florence Eustache.
Ici, on est dans la salle d'azote. Dans cette salle d'azote, vous avez donc les cuves qui sont remplies d'azote dans lesquelles vous allez avoir en fait les ovocytes, les embryons et les spermatozoïdes qui sont conservés.
En moyenne, 20 hommes et 35 femmes, dont la moitié seulement iront au bout de leur démarche, viennent donner leurs gamètes dans ce CECOS chaque année.
Vous avez ici donc l'appareil qui va permettre en fait le remplissage des paillettes quand on va congeler les spermatozoïdes.
C'est vous, madame, qui vous en chargez ?
Oui. Là, il y a à peu près 3 millilitres. Pardon, excusez-moi, je mets des paillettes. Donc là, tout est prêt, donc je lance l'appareil.
Chaque paillette contiendra au moins 2 millions de spermatozoïdes. Et en quelques secondes...
La première paillette, elle est déjà remplie là ou pas ?
Oui, elle est déjà sortie. Donc quand j'ai toutes mes paillettes, après, donc, c'est l'étape de la congélation. Ça va mettre à peu près un quart d'heure. Le sperme est
une
très
congélation
résistant.
À moins 150 degrés, puis moins 196 degrés. Congélation d'un sperme dont le donneur restait jusqu'à aujourd'hui anonyme. Avec la nouvelle loi, il est prévu que les futurs enfants puissent remonter jusqu'à leurs parents biologiques. Docteur Florence Eustache.
On aborde le sujet. Moi, j'ai des couples qui vont nous dire c'est pas grave, parce que de toute façon, on avait l'intention de le dire à l'enfant. Et nous, ça nous pose absolument aucun problème. Et des couples qui ont peur, qui n'ont pas pensé, ça leur rajoute une question supplémentaire dans leur démarche. Donc c'est vrai que pour ces couples qui vont être dans cette période de transition, il va falloir clarifier rapidement pour que savoir si ce n'est pas rétroactif ou comment ça se passe exactement pour eux. Cependant, ce qui va être aussi compliqué à gérer, c'est que si le couple veut un deuxième enfant, comment on va faire avec un enfant conçu sous l'anonymat et un enfant conçu alors qu'il peut accéder aux données du donneur. Donc les couples qui vont être sous le coup de la transition, ça va être très compliqué.
Mais il n'y a pas que les parents receveurs qui s'interrogent. Les donneurs également peuvent être troublés. On sait qu'on manque de dons en France, rappelle Nicolas Mendes, le psychologue du CECOS.
L'une des grandes craintes a été, et encore pour beaucoup de personnes, qu'il y aura beaucoup moins de donneurs et beaucoup moins de donneuses. Or, lorsque moi je pose cette question aux donneurs et aux donneuses, alors au début il peut en effet avoir un mouvement un peu de recul, surtout lorsqu'ils n'ont pas du tout connaissance des débats autour de cette loi. Mais lorsqu'on leur dit que ça sera à la majorité de l'enfant et à la demande de l'enfant uniquement, là il y a quelque chose qui s'apaise et qui s'interroge. Et c'est très rare que les personnes me disent « là j'ai même pas une situation en tête où c'est arrivé ». Oulala, il en est hors de question pour moi.
250 hommes et 540 femmes donnent leurs gamètes chaque année en France et les bébés nés grâce à un tel don seraient un peu plus d'un millier. Ces statistiques datent de 2015. Mais avec l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, la demande va augmenter.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous tirez la sonnette d'alarme en disant si la loi passe demain, on n'aura pas assez de donneurs, on n'aura pas assez d'assistantes sociales, qu'on n'a pas du tout d'ailleurs pour l'instant, on n'aura pas assez de psychologues, etc.
Alors, je ne vais pas jusque-là, mais en fait, on ne sait pas du tout. Moi, j'ai aucun moyen de savoir ces donneurs et ces donneuses non anonymes. Si on va nous aider à les recruter, si on nous aide, s'il y a des campagnes de communication, peut-être qu'on y arrivera, mais je n'en sais rien en fait. Je n'ai aucune visibilité.
On entend quand même que ça vous inquiète.
Oui, parce que c'est quand même un petit flou. Et puis moi, je veux pas que pour les couples, que ça ait des conséquences, c'est qu'on se retrouve avec des délais qui soient pas acceptables. Pour le don de spermatozoïdes, c'est un an. Donc le temps de réflexion, de faire toutes les démarches, etc. On est dans des délais, moi je trouve acceptables. Le don d'ovocytes, on est sur des délais qui sont, pour nous, notre centre, un an et demi, deux ans chez les Caucasiens. Après, quand on commence à être sur des ethnies rares, les Africains, les Asiatiques, on est sur des délais d'attente de 4 ans, c'est trop long. Donc là, ça devient pas acceptable.
Les médecins espèrent donc que des moyens supplémentaires leur seront alloués.
Et vous pouvez retrouver le reportage de la rédaction signé Tarache Légal sur le site de France Culture, franceculture.fr. Bien sûr.